Cet après-midi, c'est évangélisation, mais c'est pas grave. Nous parlerons, parce que sur 4 réunions, faire 7 églises, c'est un peu compliqué. Donc cet après-midi, nous en aborderons 2, parce qu'elles sont, disons, petites, Smyrne et Pergame. Et s'il y a des gens nouveaux, eh bien nous donnerons ce qu'il faut quand même pour qu'ils puissent, comprendre. Voilà, je vous propose de lire quand même, dans l'Apocalypse chapitre 2, verset 1er, ce qui concerne l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Et ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie, qui est dans le paradis de Dieu. Amen. » Voilà, les chandeliers sont les 7 églises, et ces églises étaient appelées à porter bien haut la lumière de Christ. Et en fin de compte, c'est la vocation de toute église d'avoir ce rayonnement, d'avoir cette lumière. Jésus n'a-t-il pas dit, vous êtes lumière, celle de la terre, lumière du monde, individuellement, mais aussi collectivement. Et nous sommes chacun comme des porte-lampes. Et l'Écriture dit, car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Christ que nous prêchons. Notre personne, en fin de compte, elle n'intéresse personne, mais nous devons pouvoir proclamer, eh bien, celui qui est le Seigneur, le Sauveur. Et au milieu des chandeliers d'or, Jean va distinguer le Christ vivant, celui qui vit au siècle des siècles. Et il va contempler la fresque du temps et la majesté du Seigneur, ce qui était la toute-puissance et la majesté du Seigneur, ce qui est la dispensation de l'Église. Cette parenthèse entre la naissance de Jésus et son retour, l'enlèvement de l'Église, et ce qui sera. Les aspects terribles et glorieux de Jésus dans le monde futur, et il est dit les choses qui doivent arriver bientôt. Et nous avons en particulier, dans un évangile, un certain nombre de faits qui nous sont rapportés, et il nous est dit que quand ces choses arriveront, eh bien, levez votre tête, parce que votre délivrance est proche. À Éphèse, ce qui qualifie cette église, c'est l'abandon du premier amour. Nous y reviendrons. L'abandon, non pas la perte. Perdre quelque chose, c'est une affaire. Abandonner quelque chose, c'est une autre affaire. Et Éphèse n'a pas perdu, mais Éphèse a abandonné. Mais il y a aussi les aspects de la vie chrétienne, qui sont comme préfigurés dans les 7 lettres aux églises d'Asie. Ce que le Seigneur décrit à Jean et lui ordonne d'écrire nous informe des dangers qui nous menacent. Et en fin de compte, il tend à nous stimuler dans notre croissance spirituelle. Il y a des attitudes, il y a des mentalités qui sont décrites comme étant des victoires sur des situations difficiles. Éphèse. Éphèse, c'est une ville qui a été fondée environ 1000 ans avant Jésus-Christ. C'était une ville prospère, et même au temps des apôtres, c'était une ville qui était véritablement prospère. C'était une ville stratégique, et il y avait entre autres, à Éphèse, le temple d'Artémis, ou la Diane des Romains. Et ce temple était l'une des 7 merveilles du monde. Et aujourd'hui, si vous allez à Éphèse et que vous visitez les ruines d'Éphèse, eh bien c'est impressionnant. Je vois la première fois où j'y suis allé, quand on descend, j'allais dire un boulevard, ça s'appelait pas comme ça à l'époque, mais une grande avenue, comme sont les avenues romaines. À un moment donné, on arrive à une place et on voit les ruines de la bibliothèque d'Éphèse sur 3 niveaux. Alors bien sûr, ce ne sont que les ruines, il n'y a pas les marbres qui étaient dessus, il n'y a pas la toiture, mais on voit l'ossature et c'est véritablement impressionnant. C'était donc une ville très très importante. Et dans ce grand centre, idolâtre et corrompu, Dieu a suscité une église, un peuple, numériquement faible, mais qui est fort en Jésus-Christ. Corrompu et idolâtre, déjà parce qu'il y avait ce fameux temple, avec des dizaines d'ouvriers qui fabriquaient des figurines pour les touristes. Il y avait les temples communs à l'époque, il y avait même celui qui était dédié à l'empereur, et on retrouve sur certaines de ces avenues les ruines de ces temples. Corruption. Éphèse, à l'époque, était au bord de la mer. Aujourd'hui, il y a les alluvions qui sont arrivées, donc la mer, elle est à 3, 4 ou 5 kilomètres. Et quand les marins arrivaient là, et qu'ils cherchaient, excusez-moi, mais c'est comme ça, les lieux de prostitution, eh bien, il y avait des panneaux indicateurs. En fin de compte, c'était pas des panneaux, c'était gravé sur les trottoirs. Ils avaient juste à suivre les flèches pour arriver. Donc c'est quand même assez impressionnant, puisqu'on retrouve cela encore, les marques, eh bien, sur la roche. Et au milieu de cette idolâtrie, de cette corruption, Dieu, eh bien, a suscité un peuple. Au milieu de la corruption qui sévit aujourd'hui dans notre société, et qui tend à s'aggraver, qui par les réseaux sociaux, par les moyens d'aujourd'hui, eh bien, atteint pratiquement tout le monde, de l'adolescent à la personne la plus âgée, et on trouve le tout et son contraire. Eh bien, Dieu est capable non seulement de maintenir l'Église, ou les Églises qui existent, mais il est capable de les faire grandir, s'accroître, et il est capable également d'en susciter d'autres. Il ne faut pas imaginer que parce que la société est ainsi, eh bien, les portes sont fermées, tout est fichu. Et penser à simplement entretenir ce qui existe tant bien que mal. Non, je crois que Dieu est capable de susciter, au sein même de la corruption, eh bien, des églises. Il peut faire lever des hommes et des femmes qui vont le découvrir, qui vont l'aimer et qui vont, eh bien, le servir. La Bible, eh bien, ne méprise pas ce qui est humble et petit. Et il est dit qu'il ne faut pas mépriser le jour des faibles commencements. L'église d'Éphèse semble avoir vu le jour par le témoignage d'Aquilas et de Priscille. Ils étaient exilés de Rome et ils sont devenus compagnons de travail de Paul à Corinthe, et c'est là que l'œuvre a commencé. Au début, les premiers convertis se sont réunis dans des maisons. Alors, c'est vrai qu'il faut aussi avoir la notion de l'époque. Si vous pensez réunir une église dans votre maison et que vous habitez un HLM de un F4, ça va être compliqué. Et c'est quelquefois la notion que nous avons. Mais quand il est question, la plupart du temps, des réunions dans les maisons de l'époque, c'était de certains dignitaires, et dans ces maisons, on regroupait tout. C'est-à-dire qu'il y avait la maison du maître, et puis il y avait la maison des serviteurs. Et dans ces maisons-là, on pouvait aller de 50 à 150 personnes qui habitaient avec différentes responsabilités. C'était presque un grand hôtel. Il faut quand même se mettre ça aussi en tête. Et quand vous visitez certaines ruines, vous allez par exemple du côté de Vienne, au sud de Lyon, à Sainte-Colombe, ils ont découvert, eh bien, là, les maisons de certains dignitaires romains, puisqu'il y avait des thermes à Vienne, il y a encore d'ailleurs, un amphithéâtre, eh bien, c'est des grandes superficies. Et ils pouvaient se retrouver à 80 ou 100 personnes sans problème. Le responsable des ADD en Jordanie, quand je suis arrivé en novembre chez lui, il m'explique dans la voiture que il a commencé l'église dans son salon. Alors moi, j'ai vu le mien. Déjà, c'est pas très petit où je suis, mais bon, je voyais, voilà. Et puis quand je suis rentré dans sa maison, j'ai vu le salon, waouh, mais on met 150 personnes dans son salon. Il y a 4 ou 5 canapés, plus les fauteuils, et puis la table de salle à manger qui est sur le côté, mais son salon, il est immense. Alors moi, j'ai commencé dans un salon, moi je voyais, il avait mis 4-5 personnes. Hein. Bon, tout dépend comment... On voit les choses, hein. Voilà. Donc, à Éphèse, ça a commencé comme cela. Et nous savons qu'il y avait à Éphèse un homme qui s'appelait Apollos. Et c'était un homme éloquent, versé dans les Écritures. Et il est dit que le couple va lui exposer plus exactement la voix de Dieu et il se rendit utile aux croyants plus efficacement. C'est dans le chapitre 18... des Actes des Apôtres, il est dit, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur, fervent d'esprit, il annonçait, enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue, Aquilas et Priscille l'ayant entendu, le prirent avec eux, et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Donc, en fin de compte, ils l'ont amené au baptême de Jésus et certainement à l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. On retrouve Paul qui se rend à Éphèse et là, il rencontre 12 hommes et il parle avec eux. Des chrétiens, ouais, nous aussi, et ils discutent. Et Paul, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il finit par leur dire, mais au fait... Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Le Saint-Esprit? C'est quoi le Saint-Esprit? Vous n'avez pas entendu parler du Saint-Esprit. Alors Paul leur dit, mais puisque vous dites que vous êtes engagés dans la foi, quel baptême avez-vous reçu? Et ils vont dire, on a reçu le baptême de Jean, c'est-à-dire le baptême de la repentance. Donc il est dit que Paul... les a baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a prié pour eux et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils ont fait l'expérience chrétienne, j'allais dire, élémentaire, de base, obéissance à la parole en étant plongé dans l'eau et en recevant, eh bien, l'Esprit. Et il est dit que pendant 3 mois, librement, il va parler dans la synagogue et puis il enseignera pendant 2 ans chaque jour, dans une école qui s'appelle l'école de Tyrannus. On retrouve un petit peu plus loin dans les Actes que des miracles remarquables ont été réalisés par les mains de Paul, et puis la parole de Dieu qui était annoncée, eh bien, faisait son travail. Il est dit, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Et à partir de là, il y a eu des réactions. Des réactions extrêmement violentes, très vives. Les réactions d'un riche industriel qui s'appelait Dimitrius et qui fabriquait des figurines représentant le fameux temple de Diane. Les gens se tournaient vers le Seigneur Et bien sûr, il n'achetait plus comme objet de superstition, eh bien, ces figurines-là. Et disons qu'il y a des commerçants qui devaient les vendre pour les touristes de passage, puisque c'était un port, et ces commerçants, eh bien, ne les mettaient plus en vente. Ils vendaient autre chose, mais ils ne vendaient plus, eh bien, cette petite idole. Et ça a suscité de très très violentes réactions. Et quand on pense que l'amphithéâtre d'Éphèse a été, disons, bondé, et que les gens se sont dressés, ont hurlé, comme le rapporte le livre des Actes, contre Paul qui a été amené là, je veux dire, c'est impressionnant. Quand vous êtes dans cet amphithéâtre, il est immense. Là aussi, la première fois, j'ai essayé de comprendre, de voir le petit Paul là-bas en bas, et tous ces gens, dans leur colère, et pourtant, eh bien, Dieu l'a préservé. Dieu l'a béni, Dieu l'a encouragé. Paul a été averti que de ville en ville, c'est à Éphèse, des liens l'attendent. Et il envoie chercher à Éphèse les anciens de l'Église, et il leur laisse comme un testament spirituel. Et ce testament est celui-ci dans les Actes chapitre 20 et au verset 29. Il est dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Nuit et jour, pendant 3 années, il a été auprès des chrétiens de cette église. Mais il les avertit de ce qui va arriver. Et nous savons, eh bien, que les loups cruels sont apparus. Il y en a qui sont venus de l'extérieur, il y en a qui sont sortis de l'intérieur, et le troupeau n'a pas été épargné. Il y a des encouragements, parce que Jésus dira à Jean, je connais, je connais. Et on retrouve pratiquement cette même expression dans toutes ces lettres aux églises. Je connais. S'il y en a un qui connaît, c'est lui. S'il y en a un qui me connaît, c'est lui. S'il y en a un qui connaît chaque église, c'est lui. Je connais. On n'a pas besoin de lui raconter grand-chose. Il est celui qui, dans le moindre détail, eh bien, connaît. Et il se présente à l'église d'Éphèse comme étant son chef, comme étant la tête. La situation exacte de cette église et de ceux qui la composent, eh bien, est parfaitement connue de lui. Il connaît les ferments destructeurs qui ont provoqué certaines situations et déterminé l'état spirituel des uns et des autres. À Éphèse, il y a de faux apôtres. De faux apôtres qui, par leurs mensonges et leurs calomnies, cherchaient à saper l'autorité des conducteurs spirituels. Mais il est dit que l'Église ne les supportait pas. Pas plus d'ailleurs que les œuvres des Nicolaïtes. Alors, c'est quoi les œuvres des Nicolaïtes? On suppose qu'il s'agissait de Nicolas d'Antioche, un des 7 diacres qui aurait dévié doctrinalement, ou alors des prêtres d'un clergé dominateur qui aurait subjugué les communautés chrétiennes. À Pergame, on va retrouver aussi ces fameux Nicolaïtes qui, là, à Pergame, sont associés au Baalamite, Balaam, qui veut dire celui qui détruit le peuple, et Nicolas, celui qui a triomphé du peuple. Lorsque nous haïssons ce que le Seigneur haït, alors on est approuvé, on est soutenu. La position de l'Église d'Éphèse était approuvée du Seigneur. Elle avait courageusement suivi les instructions données par Paul à Timothée, l'un des premiers dirigeants. Mais il y a aussi des reproches. Malgré son discernement, malgré sa fidélité, quelque chose n'allait pas à Éphèse. Le premier amour s'était progressivement refroidi. Et la faute des Éphésiens est peut-être d'avoir corrompu leur principale qualité. Je m'explique. Leur opposition aux faux frères a introduit dans l'Église un esprit de jugement. La division et l'abandon du premier amour. Et si tel était le cas, il s'agirait de l'amour fraternel, mais il peut aussi s'agir de l'amour envers le Seigneur. De toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. À force d'examiner, d'essayer de voir si on est dans la vérité, eh bien, cette qualité-là, elle s'est transformée en défaut. Ils se sont mis à juger tout le monde. Ils sont partis, eh bien, dans une exagération, et c'est ainsi que leur amour, eh bien, s'est refroidi. Nous savons dans l'Épître aux Éphésiens que Paul avait déjà engagé les Éphésiens à aimer le Seigneur, mais à l'aimer d'un amour inaltérable. Pas simplement à l'aimer, mais à l'aimer d'un amour qui n'est pas falsifié, fissuré, cabossé, mais qui est vrai, qui est sincère, qui est d'origine, qui a conservé, eh bien, toute sa fraîcheur et toute sa vitalité. Et entre la création de l'Église et le bilan actuel, il s'est écoulé environ 40 ans. Et dans ces 40 années, eh bien, la vie spirituelle s'est refroidie. Au début, c'est un petit peu imperceptible. On s'en rend pas compte. Mais rapidement, les effets deviennent désastreux. C'est comme si vous décidez de prendre un bain chaud. Vous faites couler l'eau dans votre baignoire, vous mettez les sels que vous souhaitez. Et puis, vous rentrez, vous installez, vous avez un petit cale-tête, et puis vous vous endormez, et vous sortez de la baignoire avec une pneumonie. Parce que l'eau s'est refroidie sans que vous vous en rendiez compte. Et là, c'est ce qui s'est passé. Petit à petit, les choses ont changé. Et d'un coup, il y a une sorte de réveil, et on se rend compte, waouh! On est loin. En fin de compte, c'est un choix. Tu as abandonné. C'est un choix et c'est un mauvais choix. Au lieu de cultiver, de développer une relation intime et profonde avec Jésus-Christ, beaucoup se sont détournés de lui pour s'adonner à toutes sortes d'activités qui ont leur importance, mais qui ne sont pas fondamentales, qui ne sont pas primordiales, qui ne sont pas essentielles. Et on fait valoir les multiples activités qui sont les nôtres pour tenter de justifier notre haute spiritualité. Sauf que on peut faire des quantités de choses. On peut les faire même au nom du Seigneur, on peut les faire pour le Seigneur. Ce qui est important, c'est de les faire avec lui. Parce que pour le Seigneur, on peut faire 1000 choses. Avec lui, c'est différent, parce qu'avec lui, il faut qu'il soit d'accord. Il faut qu'il nous donne la main d'association. Et quelquefois, on s'épuise en faisant des quantités de choses, mais elles ne sont pas essentielles, elles ne sont pas fondamentales. Ce qui va donner le sens, la valeur à nos actions, c'est un amour vrai, sincère, profond, dynamique. Pour celui qui nous a aimés le premier. C'est un choix. Je peux perdre mes clés. Qu'est-ce que j'ai fait des clés de ma voiture? Mince. Je les ai laissées sur la chaise. J'ai perdu mes clés. Par contre, il y a des gens cet été, ils ont abandonné leur chien sur une aire d'autoroute. partent en vacances, et qu'est-ce qu'on fait du chien? On va pas l'accepter dans le camping où on va pas l'accepter dans l'hôtel où on a réservé. Ben, ma foi, hop, à l'aire d'autoroute, on l'abandonne. Et la SPA, elle en récupère combien? Des chiens, des chats. C'est un choix, j'abandonne, je sais ce que je fais. C'est pas de dire, mince, qu'est-ce qu'il est devenu le chien? Oh. Non, on l'a abandonné, c'est un choix. On est remonté dans la voiture, on a démarré et on l'a laissé sur l'aire de l'autoroute en disant, ben, quelqu'un le récupérera. Et là, c'est bien ça, tu as abandonné ton amour. À un moment donné, tu as fait le choix de moins te consacrer à Dieu pour te consacrer à d'autres choses qui touchent peut-être à l'œuvre de Dieu. Mais ton amour premier, il doit être pour le Seigneur, ce qui va donner un sens et de la valeur, de la signification, eh bien, à tout le reste. Pourtant, à Éphèse, il y a eu un départ encourageant, prometteur. Nous l'avons lu. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans rien cacher. Alors eux, ils n'ont pas manqué d'études bibliques, hein. Ils ont eu tout ce qu'il fallait et quel auteur. L'apôtre Paul lui-même. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. C'était pas simplement un job. Il y mettait son cœur, il y mettait son âme. Plusieurs fois, il a pleuré en apportant ses exhortations nuit et jour. C'était pas 2 réunions par semaine, c'était 1 réunion tous les jours et quelques-unes duraient longtemps. On sait qu'Eutychus, il s'était assis sur le bord de la fenêtre et Paul était tellement intéressant qu'il s'est endormi, il est tombé. Sauf qu'il n'est pas tombé du bon côté. Il aurait pu tomber dans la pièce, hein. Il se serait fait une petite bosse, mais il est tombé dans la rue. Et il était mort. Et Paul l'a ramené à la vie. Donc la réunion durait depuis un moment, hein. Dans une de nos églises, il y a quelques années, il y a un pasteur, il prêchait. Il disait, voilà, je vais terminer. Et puis il continuait. Donc maintenant, je vais terminer. Puis il continuait. Donc nous allons terminer. Et puis il y a un brave monsieur au premier rang qui lui dit, alors quand est-ce que tu dis Amen? Donc les réunions, elles étaient assez longues. Nuit et jour, je vous ai exhorté, je vous ai enseigné. 2 années dans la maison de Tyrannus. Le Seigneur va même féliciter cette église. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, qui ne le sont pas, que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Waouh, c'est des formidables attitudes, ça. Donc, le Seigneur est capable de reconnaître aussi ce qui va bien et de le souligner. Mais malgré ses qualités spirituelles, il leur manquait l'essentiel. La ferveur avait disparu. Maintenant, c'était une sorte de routine qui s'était installée. Ils servaient Dieu, mais sans y mettre leur cœur. Leurs activités étaient devenues routinières. Ils croyaient, mais ce qu'ils faisaient, ils le faisaient sans enthousiasme. Et ça, c'est une chose qui peut nous menacer, vous et moi. Je peux dire, bon, c'est dimanche, waouh. Bon, on va aller au culte, hein, parce que, ouais, si je ne vais pas au culte. Donc on y va parce qu'il faut y aller, hein. Mais moi aussi, je pourrais prêcher parce qu'il faut prêcher. Et on pourrait faire les choses, les faire bien, mais sans ferveur, sans enthousiasme. On peut dire à quelqu'un, je t'aime. Et on peut dire, je t'aime. C'est le même mot. Il n'y a pas tout à fait la même saveur entre les deux. Et c'est vrai que on peut tomber sans s'en rendre compte véritablement Eh bien, dans une routine. Le travail, les œuvres sont encore là. Elles se sont même multipliées. Mais ce n'est plus l'amour qui inspire le travail. On peut être absorbé par ce que l'on fait et non plus par ce que l'on est. Une nouvelle génération s'est levée à Éphèse, très attachée aux traditions spirituelles, mais qui n'éprouvait qu'un faible amour pour le Christ et pour les frères. Notre vie chrétienne ne trouve sa vraie dimension que dans la poursuite d'une relation intime et profonde avec le Christ, et aussi dans une réalité positive, dans la relation fraternelle, dans la communion que nous devons avoir les uns avec les autres. Alors, le désir du Seigneur, c'est qu'il y ait un changement. Et il va dire, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Ça signifie quoi? Ça signifie abandonner les bagages inutiles amassés au cours du chemin. Et donner, redonner à Jésus-Christ la première place. Et surtout ne jamais déclarer comme Caïn, suis-je le gardien de mon frère. Il y a parfois des bagages inutiles. En disant ça, je pense à une brave mamie qui était dans l'assemblée de Manosque, mademoiselle Mévolon. C'était une vedette. Elle pouvait plus faire du vélo, et à mon sens, elle n'avait jamais eu le permis de conduire. Mais elle faisait du stop. Elle est même descendue à notre mariage à Aix-en-Provence en stop, de Villeneuve. Et quand les voitures s'arrêtaient pas, il n'y avait pas de problème, elle se mettait au milieu. Et avec tout le respect que je dois à cette brave, on pouvait pas ne pas la voir. Et un jour, c'est un frère d'Aix-en-Provence qui descendait de Digne avec sa 4 chevaux et qui s'est arrêté pour la prendre. Et elle avait un cabas dans chaque main et elle voulait rentrer dans la 4 chevaux. Et ça passait pas. Déjà, elle passait tout juste. Mais avec les deux cabas, c'était pas possible. Et le frère est descendu, il lui a dit, on va mettre les sacs d'abord. Non. Elle voulait, mais c'était pas possible. Bon, ils ont pu résoudre le problème. Ça signifie abandonner les bagages inutiles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout peut pas passer. Tout ne peut pas être accepté. Et il y a des choses qui sont inutiles, sans valeur. Alors on les laisse de côté. En passant la douane, il y a quelqu'un qui avait une bouteille d'eau, et ils lui ont dit, avec la petite bouteille, vous ne pouvez pas passer. Bon, ils ont jeté la bouteille. Au revoir. Petite bouteille d'eau, c'est pas grave, hein. Sauf que juste devant moi, il y avait une dame, elle avait une bouteille de parfum. Et d'un très beau parfum. Et ils lui ont dit, vous pouvez pas passer. Il faut la laisser. Et elle avait pas envie. Mais tu gardes ton parfum et tu passes pas, et tu montes pas dans l'avion. Tu te sépares du parfum et, ma foi, tu peux monter dans l'avion. Alors elle s'est tournée vers moi, elle m'a dit, monsieur, vous vous rendez compte? Eh ben, j'ai dit oui, mais il fallait le mettre dans votre valise, dans la soute, ça passait, vous l'avez gardé dans votre sac. Et tout au désolé, elle a mis ça dans la poubelle qui était là, réservée à cet effet. La bouteille d'eau, c'est sans importance. Le reste, hein, ça lui avait coûté des sous quand même. Et puis à qui elle avait promis le cadeau, ma foi. Alors nous, on peut dire, oui, mais c'est pour moi, c'est important. Oui, pour toi, c'est important. Et pour Dieu, c'est pas aussi important que ça. Ce qui est important pour Dieu, ce sont pas tes bagages, c'est ta personne. Et ce qui doit être important pour toi, ne sont pas tes bagages, mais c'est sa personne. Et là, eh bien, il est dit, repens-toi. C'est-à-dire, remets les choses en ordre, remets les choses dans le bon sens, remets-les d'aplomb, conjugue à l'endroit. Et les choses iront. Il faut que je traduise ma connaissance en acte. Souviens-toi. Vous connaissez l'histoire d'Élisée avec les jeunes qui coupaient des arbres pour construire un baraquement. Et puis il y en a un, d'un coup le fer de la hache, hop, il s'est échappé, il est tombé dans la rivière. Et le pauvre, il était ridicule, il n'avait plus que le manche, qu'est-ce qu'il voulait faire? Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Et en plus, il avait demandé à quelqu'un de lui prêter la hache. Et il serait encore plus ridicule en disant, écoute mon ami, excuse-moi, je te rends le manche. voilà, alors que c'est quand même le fer qui est le plus important. Et dans sa désolation, il s'adresse à Élisée, il dit, voilà Élisée, j'ai pas ce qui m'arrive. Et que dit Élisée? Il va dire, où est-il tombé? À quel endroit? Là. Et Élisée prend un bois et le jette sur la rivière. Et le fer remonte à la surface. Un véritable miracle. Ce bois que Élisée a jeté, c'est le symbole de l'œuvre de la croix. Mais le bois n'a pas été jeté comme ça, au hasard, dans la rivière. Non, à l'endroit où le fer était tombé. Et la démarche d'Éphèse, la démarche que nous avons parfois, c'est où est-il tombé? Où t'es-tu trompé? Où t'es-tu égaré? À partir de quel endroit as-tu bifurqué? C'est pas simplement, Seigneur, tu vois, si j'ai fait quelque chose de mal, tu me pardonnes. Ça, on l'a entendu combien de fois dans nos réunions? C'est pas si j'ai fait quelque chose de mal, parce que Dieu va pardonner, mais tu sais pas ce qui a été pardonné. Puisque tu sais pas ce que tu as fait de mal. Et disons, dans ce brouillard-là, je veux dire, il n'y a aucune spiritualité, ça n'a aucun sens. Ou j'ai fait quelque chose de mal et je sais ce que c'est, et je dis, voilà, le fer, il est tombé là. Et à cet endroit, eh bien, je mets en valeur ce que le Christ a accompli sur la croix. Le sang qui a été versé lave, purifie de tout péché, de toute souillure. Et ça, c'est important. C'est pas simplement si j'ai fait quelque chose de mal, mais c'est j'ai fait ça de mal. Alors, je suis pas obligé de le dire en public, d'ailleurs. Mais la repentance, c'est ça. Le pardon, c'est ça. La restauration, c'est ça. La remise en route, c'est ça. Et pas simplement, là, dans quelque chose de vague. Mais il faut que ce soit précis, une remise en ordre. Sinon, il sera dit à Éphèse, c'est le jugement. Et je termine, il y a quand même une récompense qui est promise au vainqueur, à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Et pour cela, il faut une décision, il faut un acte d'obéissance. Il faut se dégager de l'indifférence ambiante. C'est ainsi qu'on trouve cette parole, « Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. » Réveille-toi, toi qui dors, c'est quelque chose qui nous secoue et on se réveille, on est là. Et à partir de ce moment-là, le projecteur de Dieu peut se braquer sur moi. Il est celui qui peut m'éclairer. Il est celui qui à nouveau a accès auprès de moi. Et il peut m'enseigner. Il peut me prendre par la main. Quand je dors, en principe, je rêve. On se souvient pas de tous les rêves qu'on fait, mais quelqu'un qui est en bonne santé, il rêve plus de la moitié de la nuit. C'est pas moi qui le dis, c'est sur le plan médical. Moi j'ai deux chats, et il y en a un qui dort dans mon bureau. Mais les chats, ça a cette particularité, c'est que ça fait souvent la sieste dans la journée. Hein. Et des fois je suis à mon bureau, et le chat il est sur le fauteuil à côté, et je l'entends rêver, parce que de temps en temps il fait des... Alors je regarde, il est là, voilà, je ne sais pas à quoi il rêve, hein. Il a des histoires de chats et de souris certainement. Voilà, si on est en bonne santé, on rêve. Quand on dort, on rêve. Quand on est réveillé, on rêve pas. Et il y a tant de gens qui rêvent. S'imagine. Voilà, ils sont dans l'irréalité la plus totale. Hein. Non, il faut que je me réveille. Il faut que mes yeux soient ouverts. Il faut que je donne accès, eh bien, à la parole de Dieu, à mon cœur. Et c'est ainsi, eh bien, que le Seigneur pourra, eh bien, accomplir son œuvre. Et il est bien dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Il y a une promesse, il y a une promesse de richesse, de bénédiction à celui qui est vainqueur. Voilà donc ce que nous pouvons partager sur l'église d'Éphèse, mais vous pouvez relire cette lettre à l'église d'Éphèse, vous pouvez repasser ce que nous avons partagé, peut-être, eh bien, trouver quelques particularités, sachant que l'église d'Éphèse, c'est le point de départ. Quand on termine à la septième, l'Odyssée, c'est la mentalité de notre génération, c'est la mentalité de la fin des temps. Les sept églises, il y a une progression non seulement dans la vie chrétienne, mais aussi dans l'histoire, eh bien, de l'Église. L'Église d'Éphèse, c'est celle qui a démarré, là donc à la naissance de Jésus-Christ, à sa mort, à sa résurrection, à son ascension, et puis on termine avec l'Odyssée, qui est l'Église de la fin des temps, donc ça c'est quand ? Mercredi soir. 19h, on parlera de l'Église de l'Odyssée. En attendant, on aura fait les autres. D'accord ? On prie ?